Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Lizzie présente Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. De Fabien Olicard, lu par l'auteur. Avant-propos. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Pour écrire ce livre, ma plus grande difficulté a été de trouver le titre. Difficile de se limiter à une phrase tant les sujets de l'échec, du succès, du bonheur, du zéro mental, de la neutralité, de la réussite et de la souplesse mentale ricochent les uns sur les autres sans ordre prédéfini. Pour autant, ce livre audio est vraiment fait pour tous ceux qui l'écoutent. Afin que vous compreniez pourquoi vous arriverez à être libre et heureux, voici une comparaison. Tout le monde sait marcher. Cela est vrai car on apprend ou on comprend comment avoir les bons réflexes pour rester debout et avancer, parce que le corps humain, sa composition et ses membres sont tous déjà conçus pour rendre cet objectif possible. Pour le bonheur, c'est la même chose. Tout est déjà en place dans votre cerveau pour que vous le viviez pleinement. Il ne vous manque que quelques réflexes que vous trouverez ici. S'il y a bien un sujet que j'ai étudié tout au long de ma vie en regardant ce qui se passe dans notre cerveau, c'est celui des souplesses mentales et émotionnelles, les deux sources du bonheur. Nous vivons dans une réalité beaucoup moins figée qu'il n'y paraît. Nos sens transmettent des informations que notre cerveau trie à sa guise, selon nos schémas internes. Il organise nos ressentis et nos souvenirs selon des angles qui ne sont pas la vérité, mais sa vérité. Le cerveau a du mal à être factuel, et ce livre audio va littéralement télécharger assez de nouvelles données dans le vôtre pour que vous ne cherchiez plus à être heureux, mais pour que vous le soyez, tout simplement. Quand j'ai voulu commencer à écrire sur ce sujet, j'avais en tête une question personnelle. Il y a 20 ans, j'ai vécu plus de 6 mois en toile de tente, dans un camping de l'île de Ré. Cette année, j'ai joué mon spectacle au Zénith de Paris devant une salle complète. À quel moment ai-je été le plus heureux? Le plus serein? À quel moment ai-je eu l'impression de m'accomplir? Aux deux. Car le bonheur ne dépend pas directement de ce que l'on vit, et ce livre audio va vous montrer pourquoi et comment le ressentir. Pourquoi l'échec est un mensonge? Pourquoi les objectifs sont des prisons? Pourquoi vous êtes déjà libre et heureux? Il me tarde d'avoir vos retours après votre écoute, de savoir comment vous vous sentez et quel déclic vous aurez ressenti dans votre esprit. Nous avons tous les mêmes 68 à 100 milliards de neurones, et ce qui a marché pour moi, et pour les milliers de personnes à qui j'ai pu transmettre une partie de cette philosophie, marchera pour vous. Enfin, si vous avez écouté mes précédents livres audio, vous comprenez peut-être qu'ils sont tous intimement liés, complémentaires. Tous ces ouvrages sur le temps, le bonheur, le rapport à l'échec et le cerveau sont des méthodes qui s'emboîtent les unes dans les autres, sans ordre particulier, pour composer une philosophie globale comme les pièces d'un immense puzzle. Une dernière chose. En écoutant ce livre audio, vous pressentiez qu'il y avait une lumière dans la matrice, une logique à comprendre. Bravo, vous avez fait le premier pas pour devenir qui vous êtes vraiment et être heureux sur tous les plans. Je suis déjà fier de vous. Celui qui avait peur d'échouer. Avant d'entamer l'écoute de ce livre audio, je vais vous décrire une personne étonnante. Elle n'est pas issue d'un conte et existe réellement. C'est un petit garçon né avec un esprit un peu différent, se traduisant par des tocs révélateurs. Il aime relire le même livre ou la même collection de livres inlassablement. Il peut absorber une quantité impressionnante de magazines et d'ouvrages sur un sujet qu'il a décidé de maîtriser. Il range ses crayons par couleur et par ordre de grandeur. Ne croyez pas qu'il soit ennuyeux. Il est juste plus à l'aise dans son ordre et dans ce qu'il connaît. Dès l'enfance, il a mis en place des rituels. Manger séparément tout ce qu'il y avait dans son assiette. réciter des phrases qu'il aimait avant de s'endormir, utiliser tel ou tel crayon selon la matière qu'il travaillait à l'école. Ce trait de caractère relativement invisible a pris de plus en plus de place en grandissant, au collège, au lycée, puis à l'âge adulte. Déjà, enfant, le changement le dérange. « Pourquoi vouloir changer quelque chose tout le temps ?» se disait-il. « Pourquoi faut-il apprendre de nouvelles règles, de nouvelles manières de procéder ? Pourquoi aller constamment dans de nouveaux endroits ?» Il y a bien un lieu où il peut faire des expériences improbables. Son esprit. Un immense terrain de jeu lui permettant d'imaginer les scénarios les plus complexes. Une machine où toutes les options possibles peuvent être simulées. Pas pour se raconter des histoires, mais plutôt pour faire des tests et voir ce qu'il se passera. C'est comme ça qu'il a toujours pris ses décisions, en essayant d'anticiper toutes les données du monde qui l'entoure pour faire le meilleur choix. Comme c'est un garçon gentil, la bonne décision est souvent celle qui ne blesse personne. Mieux, c'est celle qui convient à tout le monde. Comme c'est un garçon qui a besoin d'être aimé, la bonne décision est aussi celle qui correspond à ce qu'il imagine que l'on attend de lui. Mais c'est un garçon anxieux. Il vit très mal les imprévus et tout ce qui ne se passe pas comme il l'avait espéré. Dès que le chemin qu'il a imaginé mentalement prend une tournure différente, une apocalypse se déclenche dans son cerveau. Une tornade de sentiments aboutissant à une très mauvaise estime de lui-même, avec cette terrible conclusion « Je ne mérite pas d'être aimé, je rate tout ce que je fais, je ne suis jamais compris, je déçois tout le monde, je ne réussirai jamais, je ne serai jamais vraiment heureux. » Ses douleurs s'accumulent au point que, encore jeune, il profite d'un moment seul chez lui pour tenter de mettre fin à ce supplice, de mettre fin à ses jours. Heureusement, ses parents n'étaient partis que peu de temps et ont pu l'aider à retrouver la raison. Et ce petit garçon, c'est moi. Ceci est mon histoire. J'ai longtemps hésité à dévoiler cette partie de ma vie, mais je crois qu'il est essentiel que vous sachiez d'où je viens pour comprendre que la suite de ce livre audio n'est pas faite que de concepts qui font de l'effet en théorie. Je partage l'expérience de ma vie depuis le jour où j'ai décidé d'être heureux et que tout irait bien. Il m'a fallu une vie pour affiner cette philosophie, mais elle a tellement fonctionné que j'arrive à la transmettre aux autres depuis des années, le plus souvent par bribes. Pour être complètement transparent et pour que vous puissiez comprendre l'urgence de ma démarche bien avant l'âge adulte, je vais vous avouer quelque chose dont je n'ai jamais parlé publiquement et que peu de personnes de mon entourage savent. Je suis THPI, très haut potentiel intellectuel, ou encore très précoce ou surdoué, ou d'autres termes dont aucun ne peut donner le sourire à la personne qui est concernée, au contraire. La psychologue Jeanne Siofachin a, au début des années 2000, proposé un terme sans connotation pour englober tout le spectre des nuances allant de précoce à suréfficient intellectuel. Les zèbres. Un mot doux, imagé, qui ne véhicule aucun a priori. C'est le terme que je préfère utiliser depuis. Dans les années 1980, la doctoresse en psychologie Maureen Neart et George Betts, le président de l'Association nationale des enfants doués, tous deux américains, ont identifié 6 profils de personnalité chez ceux que nous nommerons maintenant les zèbres. Parmi ces 6 profils, j'étais assez clairement de type « the twice exceptional ». Ce sont des jeunes qui cumulent un haut potentiel, peu importe lequel, avec un trouble ou un handicap de quelque ordre que ce soit. Pour ma part, c'est un trouble de l'humeur me faisant passer d'un extrême pessimisme, pour ne pas dire un épisode dépressif, à une énergie pouvant déplacer des montagnes, pour ne pas dire un épisode de maniaquerie. Les enfants de type 5 ignorent souvent leurs capacités et ont une faible estime d'eux-mêmes. Leur plus grande peur est l'échec. Ils peuvent également être en échec scolaire. Durant mes premières années au collège, j'ai pu commencer à lire des ouvrages vulgarisés sur le sujet au CDI et à la médiathèque de La Rochelle. Je n'ai eu dès lors qu'un seul but, me transmuter en un type 6, The Autonomous Learner. Voici sa définition, traduite par le blog d'une famille de zèbres, Les tribulations d'un petit zèbre, que je vous recommande si le sujet vous intéresse ou si vous voulez connaître les autres types. Définition du type 6. C'est un élève indépendant, sûr de lui et très enthousiaste à l'idée d'apprendre. Souvent autodidacte, il s'accepte et est tout à fait capable de prendre des risques. Il est persévérant et aime se lancer des défis. Il défend facilement ses convictions et est très bien accepté par ses camarades comme par les enseignants et les autres adultes. Cet élève exprime librement ses sentiments, ses besoins et ses objectifs. Il a une estime de soi favorable. Scolairement parlant, il réussit bien et se sert du système scolaire à bon escient pour se créer de nouvelles occasions. Il suscite souvent admiration et sympathie. Comme toujours, connaissant mon côté procrastinateur et la difficulté du cerveau à admettre de nouveaux automatismes, j'ai dû développer une méthodologie sans souffrance et sans contrainte pour arriver à changer ma vision du monde, en commençant par reconsidérer tout ce que je croyais savoir sur l'échec, la réussite, et sur ce que tout le monde cherche à appeler le bonheur. Une pièce a toujours deux faces. Pourquoi écrire un livre qui traiterait en partie de nos échecs, de ce qui fait mal? Parce que ce sujet, presque tabou, est sûrement l'un des sentiments que nous partageons le plus avec le reste de l'humanité depuis la nuit des temps. Il est possible que nous n'ayons pas tous exploré les mêmes émotions dans nos vies, et pour les plus communes, nous ne les avons pas toutes vécues en même quantité. Une seule catégorie fait exception. La peur de l'échec, le sentiment d'échec, la culpabilité de l'échec et enfin la mauvaise estime de soi. Pour aborder ce sujet, je vais devoir jouer carte sur table avec vous, sans complexe ni tabou. Je vais vous partager rapidement ma biographie de multirécidiviste de l'échec. Depuis petit, je ne fais que rater et échouer. Enfant, j'ai échoué à me faire des amis, à être populaire et sociable. J'ai commencé le basket à 8 ans et j'étais mauvais. Lassé de faire perdre tous les matchs à mon équipe, j'ai arrêté de plomber les autres joueurs de mon village en jetant l'éponge. J'aimais bien jouer aux échecs, mais je ne faisais que perdre contre mes adversaires. Au collège, j'ai commencé à rater mes études. Mes tentatives de rapprochement amoureux étaient eux aussi peu glorieux. L'apprentissage des langues était un enfer. La pratique des arts plastiques, un calvaire. Et j'ai su également très vite que j'étais et serai toujours médiocre avec un instrument de musique dans les mains. Et je ne vous parle pas du chant quand j'ai fait partie d'une chorale collégiale. Au lycée, j'ai redoublé ma seconde, puis j'ai échoué au bac. Finalement, au cours de ma vie d'entrepreneur, j'ai dû fermer mes 5 premières sociétés. J'ai également lancé un magazine mensuel gratuit qui s'est arrêté au bout de 3 mois. J'ai joué mes spectacles devant 3 personnes. J'ai échoué à trouver un producteur. Mes débuts sur YouTube étaient ridicules. Récemment encore, j'ai raté un gros casting sur une chaîne de télé nationale faisant des millions de téléspectateurs en audience et j'ai vu différents projets tomber à l'eau, dont un escape game qui m'avait demandé 1 an et demi de travail. J'ai raté plusieurs histoires d'amour dans ma vie. J'ai plusieurs fois échoué à rendre mes parents fiers. J'ai échoué dans l'écriture la première fois que j'ai voulu écrire un livre. Je vais arrêter ici car la liste serait longue et impossible à rendre exhaustive. Je ne vous ai cité seulement que quelques échecs significatifs où vous pouviez vous projeter dans ma vie. Mais chacun de ces échecs résulte d'une succession de nombreux ratés. Parce qu'échouer suppose de faire tomber une cascade de dominos dans une même direction. Ces échecs sont mes succès. Toute cette vie résumée est une complète mise à nu de mes échecs. Pas évident à faire, je vous l'avoue. Mais ils sont à eux tous ma plus belle réussite. Attention, ceci n'est pas une figure de style. Ils font celui que je suis. Tous les résultats de ma vie qui ont pu être analysés par la société comme étant des réussites sont les conséquences d'une suite de ce que la même société considère comme des échecs. Quelqu'un qui écrirait ma biographie aujourd'hui, en gardant la même chronologie des événements, pourrait tout autant écrire « Enfant, Fabien passait la majeure partie de son temps à lire. Curieux de tout, il aimait principalement apprendre, découvrir et comprendre. Rapidement, il préféra les sports individuels aux sports collectifs, qui lui permettaient de s'entraîner en autonomie. Il apprit les échecs à l'âge de 5 ans, et son entourage ne jouant pas, ses adversaires furent des adultes expérimentés et des intelligences artificielles. Sa manière différente d'apprendre lui permettait de retenir facilement les cours, mais il s'éparpillait à se cultiver dans d'autres domaines, comme l'informatique, la culture générale, le codage, les sciences humaines, etc. À 13 ans, il développait ses premiers logiciels sur ordinateur. Loyal, fidèle et dévoué, il a connu peu d'histoires de cœur éphémères. Toutes ces relations ont duré et ont été de vraies histoires. Il s'amusa à avoir des notions dans un grand nombre de langues et, en trouvant une vieille guitare appartenant à son père, il se mit à apprendre à en jouer en autodidacte, puis le piano, la basse, les percussions et le didgeridoo. Pas très enclin à prendre le temps de s'améliorer au dessin, il chercha comment créer des graphismes satisfaisants sur son ordinateur alors qu'il était en troisième. Au lycée, il fut très apprécié par ses camarades, développa son sens social et son sens de l'humour. La découverte de la vie en groupe et de l'amitié a été sa principale activité pendant sa première seconde. Serial entrepreneur, il a, dès ses 17 ans, travaillé en indépendance, puis a créé 6 sociétés dans 4 secteurs différents. Il a écrit, joué et produit lui-même ses spectacles en France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Québec, Pays-Bas, dans les Dom-Tom et a récemment joué à l'Olympia et au Zénith de Paris devant des salles pleines. En 2016, il diversifie son art en lançant une vidéo par jour pendant un an sur YouTube. Il cumule à ce jour plus de 2,5 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Il reçoit régulièrement des propositions de l'univers télévisé et a toujours de nouveaux projets originaux en développement, dont un escape game inédit dans sa réalisation. Ses parents lui ont souvent dit comme ils étaient fiers de lui. Il a écrit 4 livres et le premier fut un tel succès qu'il est à ce jour disponible dans une dizaine de pays. Avez-vous observé ? J'ai raconté la même histoire, dans le même ordre. Les faits sont les mêmes. Seul le regard de l'observateur change pour juger des points à relever, en les qualifiant dans le sous-texte de succès ou de réussite. Détaillons plus en profondeur un exemple, le spectacle. Nous nous sommes arrêtés au positif, l'Olympia. Pourtant, ce spectacle n'était pas prêt à 100%. Mais le public fut ravi en partant et j'ai fait des dédicaces jusqu'à 1h du matin. Mais j'ai eu de gros temps faibles dans le show, des pertes de rythme et des bafouillages. Toutefois, j'ai reçu 2 standing ovations, spontanées. Mais, je pourrais continuer cet exercice de style très longtemps. Nous avons tous une vie pouvant être résumée comme la mienne, et je veux que vous le fassiez à votre tour. C'est l'un des 2 piliers représentant le point de départ de notre aventure ensemble. Mettez sur pause quelques instants. Prenez de quoi noter et écrivez une biographie rapide de votre vie, incluant vos échecs. Maintenant, je voudrais que vous écriviez cette même biographie, comme je l'ai fait, avec le regard positif des succès que l'on peut y trouver. Changez votre point de vue si nécessaire. Soyez le scribe qui va écrire votre éloge sous la forme la plus positive qu'il soit. Vous pouvez objectivement trouver des réussites partout, dans tout ce que vous avez noté au préalable. Merci d'avoir joué le jeu et félicitations pour votre implication. Cet exercice a été comme une séance d'échauffement pour votre mental. Nous allons assouplir votre mental comme nous préparons notre corps à la remise en forme. La première séance est toujours un peu difficile et provoque parfois des courbatures, mais la suite réserve toujours de belles récompenses. Le cadeau du génie de l'échec. Imaginez qu'en vous frottant les mains, de la fumée s'en échappe et qu'un génie apparaisse. Sous une allure atypique, un air solennel se dégage de lui. Il vous tend une étrange plante, puis vous dit d'une voix puissante « Mâche cette herbe, elle fera de toi le premier être humain incapable de rater quoi que ce soit dans sa vie. Avant de vous jeter sur cette racine dont vous ne savez rien, donnée par un soi-disant génie dont vous ne savez rien non plus, posez-vous sérieusement les deux questions suivantes. Voulez-vous ne plus jamais échouer? Si oui, pourquoi? Avant de rentrer pleinement dans l'écoute de ce livre audio, je veux que vous commenciez par ce jeu mental. Faites-le pour vous, pour votre futur. Rendez-vous ce service. Mettez sur pause le temps qu'il vous faudra pour avoir des réponses claires et concises à ces deux questions. Il n'y a pas de piège, pas de mauvaise réponse, juste de la sincérité. Bien sûr, vous pourriez quand même écouter la suite. Je ne vais pas surgir de derrière vos rideaux pour vous en empêcher, même si je suis sûr que vous avez maintenant une irrépressible envie de regarder vos rideaux. Mais il y a une raison à ma demande. Tout d'abord, on ne mange pas une plante que nous a donnée un inconnu sans réfléchir avant. Humour mis à part, ne pas se poser ces questions avant d'écouter ce livre audio serait comme si, avant de prendre la route au volant de votre véhicule, vous ne saviez pas pourquoi vous démarriez le moteur. Vous pourriez conduire pendant quelques heures et vous aboutiriez sûrement dans un lieu satisfaisant, en réfléchissant en cours de route. Vous finiriez par stationner où bon vous semble. Mais si vous connaissez les raisons de votre voyage, si vous savez pourquoi vous avez tourné la clé, alors le voyage et l'arrivée seront bien différents de ce que vous aviez imaginé. Répondez à ces deux questions mentalement, puis posez-les par écrit. Faites-le et reprenez ensuite votre écoute. C'est fait ? Formidable ! Regardons ensemble vos réponses. Je connais probablement la réponse à la première question. Il n'y a pas une fois où, en la posant à une personne ou à un groupe, la réponse fut différente. Indifféremment du genre, de l'âge ou de la catégorie socio-professionnelle, on me répond toujours « Oui, je crois que j'aimerais ne jamais échouer ». Et c'est vrai que ça sonne comme un super pouvoir. Il y aurait l'invisibilité, le pouvoir de voler, la super force et ne jamais échouer. Un nouveau type d'Avenger, en quelque sorte. Je comprends tout à fait, et je pense qu'il y a quelques dizaines d'années, j'aurais moi aussi mâchouillé la plante magique sans me poser de questions sur son origine et ses conséquences. Car les conséquences sont terrifiantes. Imaginons que ce génie ne soit ni bon ni mauvais, qu'il soit juste premier degré. Si vous lui dites « Je ne veux plus voir la pauvreté du monde », alors il pourra utiliser la solution la plus simple et la plus littérale, vous ôter la vue. Il en est de même pour ce qui est de ne plus jamais échouer. Vous subiriez automatiquement la perte du plus grand pouvoir qu'un être vivant puisse avoir, la capacité d'apprentissage. Nous y reviendrons plus tard dans ce livre audio, mais je veux que vous compreniez qu'une partie de ce que l'on appelle l'échec est intrinsèquement liée à notre potentiel d'évolution personnelle. On ne peut pas supprimer l'un sans supprimer l'autre. C'est à la fois le problème et la solution. Quant à votre réponse à la question « Pourquoi ?», elle est en général liée au jugement de votre réussite actuelle, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, à votre bonne ou mauvaise estime de vous et à votre rapport aux autres. J'ai visé juste ? Il y a de fortes chances. Sans vous dévoiler les chapitres suivants, vous serez surpris de la manière dont vous allez bientôt envisager ces domaines. Réussite, échec, succès, hasard, chance, raté, etc. Tous ces concepts vont être modifiés dans leur sens profond, leur compréhension et leur perception. Par extension, leurs effets aussi vont être transformés. Puis, sans perdre le puissant pouvoir d'apprendre et sans devoir manger de vieilles racines d'un génie douteux, vous allez peut-être ne plus échouer. Comme on se guérit d'une addiction, je vous propose au travers de mes échecs de comprendre que vous êtes conçu pour réussir depuis le départ, pour réussir à être heureux. Ne voyez pas cette phrase comme une accroche de gourou de développement personnel. Gardez-la plutôt dans un coin de votre tête. On en reparlera à la fin du livre audio. Vous êtes conçu pour réussir depuis le départ. Pouvez-vous imaginer ce que vous auriez pensé si mon livre audio avait commencé par ça ? Cela vous aurait au mieux fait sourire et au pire provoqué une moue dubitative sur le visage. Et maintenant, réécoutez cette phrase. Vous êtes conçu pour réussir depuis le départ. Je suis sûr que vous avez eu un sourire amusé ou bienveillant. Parce que maintenant vous savez, vous avez compris. Et j'espère sincèrement que la suppression de ces poids qu'étaient l'échec et la recherche du bonheur vous a libéré. La souplesse mentale que vous avez atteinte est la clé pour votre bien-être et vos réussites permanentes. Amusez-vous bien dans votre vie. Je suis désolé, car vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire tout ce que vous voulez. Et c'est tant mieux.